Mérant ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration. Bonjour à tous et bienvenue à notre balado « S'informer pour mieux performer », un balado présenté par le magazine Détaillant Alimentaire. C'est donc le troisième épisode de notre série, je vous invite à écouter les deux épisodes précédents. Et dans ce segment, nous allons donc parler d'approvisionnement alimentaire et de sécurité alimentaire. Pour discuter de ce sujet, j'ai toujours autour de moi donc Stéphane Lacasse et Sylvie Cloutier. Stéphane Lacasse qui est donc directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association des détaillants alimentaires, l'ADA. Et Sylvie Cloutier, donc PDG du Conseil de transformation alimentaire au Québec, le CETAC. Bonjour à vous deux.
Bonjour Sylvie, bonjour Marie.
Bonjour Marie, bonjour Stéphane.
Bonjour. Donc pour commencer sur ce sujet, j'aimerais bien vous entendre, on va commencer directement dans le vif du sujet avec les initiatives qui sont en cours pour tenter d'améliorer cette question de la sécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place au Québec? J'aimerais bien t'entendre, Sylvie, sur ce sujet.
En fait, la sécurité alimentaire, ça peut être deux choses. Ça peut être l'insécurité alimentaire, justement, les gens qui en ont pas, qui ont pas assez d'aliments sur leur table, mais c'est aussi toutes les questions de salubrité et de sécurité dans le style s'assurer que les produits qu'on achète respectent évidemment toutes nos normes, nos lois, etc. Il faut savoir au départ que les transformateurs alimentaires du Québec achètent 70 % de tout ce qui est produit à la ferme au Québec. Donc, on est très proche de nos fournisseurs dans la plupart des cas d'entreprise. Et évidemment, oui, on est obligé d'importer un certain nombre de choses parce que on les retrouve pas ici, les huiles, les épices. Alors, on a beaucoup d'ingrédients qu'on doit importer. Puis, bien entendu, le climat fait en sorte que souvent, on n'a pas assez d'approvisionnement. Mais c'est certain qu'on a des ententes avec les fournisseurs d'intrants ou fournisseurs d'aliments de base à l'extérieur du Québec qui doivent être respectés, qui doivent respecter les plus hautes normes de salubrité. Le Canada est reconnu comme étant un des pays qui a les normes les plus élevées. Les gens de l'Agence canadienne d'inspection des aliments doivent évidemment s'assurer de la salubrité des aliments. On a mis en place des normes ajustées et plus élevées par rapport à la vraie origine aussi des produits. On a vu de la fraude alimentaire dans les dernières années, puis évidemment, c'est comme n'importe quoi, on n'est pas à l'abri de fraude, mais l'agence a quand même mis en place là, une équipe additionnelle pour s'assurer que ce qu'on achète puis ce qui rentre ici au Canada est bien ce qu'on dit avoir acheté, bien entendu. Alors, il y a quand même beaucoup de normes, puis il y a beaucoup d'inspecteurs, il y a beaucoup d'inspections, il y a beaucoup je ne sais même pas comment le dire. Il y a beaucoup de gens impliqués pour s'assurer que les normes sont respectées et que les codes et tout le reste, que le consommateur, en fait, n'est pas floué aussi.
Effectivement, Sylvie a raison. On est dans une société, un pays où que les règles de salubrité alimentaire sont extrêmement sévères. Et c'est une bonne chose, d'ailleurs. Il y a des entreprises en transformation qui ont des certifications aussi, donc ça garantit quand même une certaine qualité au niveau de la salubrité. Et en magasin également, on a nos employés doivent être formés en salubrité alimentaire. On peut pas, on pense à la boucherie, on pense à la fromagerie, on pense aux charcuteries. Ces gens-là ont des formations à l'entrée, qui soient données par le CSMOCA ou par les centres de comité de main-d'œuvre ou encore par directement les bannières. Donc, il y a tout. Une notion de salubrité qui est extrêmement importante. La loi sur les produits alimentaires est extrêmement sévère également. Donc, dans notre secteur, les inspecteurs du ministère, autant au Québec qu'au Canada, viennent dans les magasins. Mais je vous dirais que généralement, autant du côté des transformateurs que du côté des détaillants, on a peu ou pas de cas là, d'insalubrité alimentaire. On ne vit pas ces problèmes-là dus au système qui est très, très bien encadré. T'sais, je me souviens de l'époque de la listériose, mais t'sais, ça, c'est un événement, je veux dire, qui a été malheureux pour nos amis fromagers. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que nos magasins sont extrêmement solides au niveau de la salubrité et de la sécurité alimentaire. C'est sûr que quand c'est des produits importés, je ne parle pas des produits transformés au Québec, mais quand c'est des produits importés, c'est plus difficile de garantir. T'sais, il y a eu le scandale sur est-ce que c'est du veau ou est-ce que c'est des poissons. On a des poissons. T'sais, quand mon fournisseur étranger me dit que c'est du tilapia, je veux dire, le commis à la poissonnerie qui a 18 ans, lui, il goûtera pas le produit qu'il vend. Donc, c'est difficile pour lui, comme employé, de dire, ben, si on me dit que c'est du tilapia, moi, je fais confiance à mon importateur. Là, le problème est là, c'est qu'au niveau des importations étrangères, il faudrait s'assurer aussi d'une traçabilité puis d'une vérification des produits. Parce que, en tant que détaillant, je me fie à la bonne foi de mon fournisseur étranger et je vous dirais que ça allait arriver dans quelques cas, mais parce qu'on ne peut pas demander au commis de vérifier chacun est-ce que c'est du thon rouge, du thon albacore, est-ce que c'est des crevettes tigrées, est-ce que c'est des crevettes. Je veux dire, à un moment donné, on a une capacité de comprendre. Mais je veux dire, quand bon, du saumon, on le voit bien, mais des fois, des produits d'importation de l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile. Il faut pas mettre la faute non plus sur notre petit commis. Donc, il faut travailler en amont, et ça, c'est le rôle du Canada, de s'assurer que les produits qui rentrent ici, ben, ils soient conformes à qu'est-ce que c'est supposé être, et non d'autres choses. Mais ça, je voudrais qu'à part ça, dans notre secteur, je pense que la salubrité, c'est un enjeu qui est essentiel, puis on veut surtout pas qu'un client soit malade. Donc, c'est important de s'assurer de la qualité des produits.
J'ajouterais à ça qu'en usine, par exemple, dans les catégories de produits les plus à risque, les inspecteurs sont là à plein temps, sont sur le plancher à plein temps. Évidemment, tout est inspecté et tout est revu au fur et à mesure. Ça, c'est par exemple dans le secteur des viandes, de la volaille. Dans d'autres secteurs, évidemment, les produits sont quand même suivis. Et comme Stéphane le disait, les grands distributeurs détaillants exigent des certifications, des normes. Il y a des audits qui sont faits en usine pour justement s'assurer que les normes et les certifications sont respectées. Et c'est la préoccupation numéro un. La dernière chose qu'une entreprise veut, c'est un rappel. Parce que c'est extrêmement coûteux c'est un risque à leur réputation et à leur marque. La salubrité est définitivement l'enjeu numéro un. En ce qui concerne évidemment les ingrédients qui viennent d'ailleurs, eux aussi doivent respecter des certifications. On se fie à leurs audits qui nous sont fournis. Souvent, on a des entreprises qui vont envoyer des inspecteurs chez leurs fournisseurs étrangers pour justement s'assurer que tout est conforme et dans les normes et selon nos normes canadiennes.
Sylvie, t'évoquais les coûts, la réputation, etc., quand il y a un problème au niveau de la sécurité alimentaire. Stéphane, je voudrais qu'on développe un peu plus les risques et les enjeux pour les détaillants, en cas de problème, justement. Jusqu'où ça peut aller?
Enfin, il faut pas attendre. Lorsqu'on a un rappel, par exemple, je vous dirais qu'on sort les produits directement. On prend pas la chance qu'un client soit malade. Puis, tu sais, on jette les produits, on s'en débarrasse, on s'assure en fait que le client ne le consomme pas. Les détaillants ont quand même beaucoup d'informations là par rapport à ça. Lorsque ce soit le Canada ou encore le Québec qui fait un rappel de produits, il y a une belle collaboration parce qu'on voudrait jamais qu'un client soit mis en danger par rapport à un produit qu'on aurait vendu. On peut informer aussi les clients des fois si ça arrive, mais je vous dirais que sérieusement, notre système est assez robuste par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut pas empoisonner des gens. Mais tu sais, je voudrais que les rappels, je voudrais, c'est pas les grandes marques, là, c'est pas les grands joueurs, c'est souvent des gens qui vont faire un peu de la, je dirais pas de la cuisine maison, là, mais qui respecteront moins un peu les normes. Puis quand tu ne respectes pas les normes, tu as un plus grand risque. Mais quand je vois des produits passer, là, je me dis, OK, ouais, je pourrais comprendre. Mais dans l'ensemble, puis des détaillants aussi, ils veulent s'assurer qu'on parlait dans les balados précédents de lien avec les fournisseurs. Bien, ce lien-là est important, puis tu fais confiance à ton fournisseur. Puis il faut juste être prudent, parce qu'il y a peut-être certains fournisseurs, petits fournisseurs, qui essaient d'aller au détail sans avoir les reins solides, mais je veux dire que la majorité des gens avec qui on fait affaire, on a des bons contacts, puis je serais surpris du contraire. Mais ça arrive toujours que quelqu'un veut lancer un nouveau produit, puis que malheureusement. Mais je voudrais que c'est beaucoup. C'est de plus en plus rare. Je pense que les magasins. Tu veux pas qu'un client arrive et dise j'étais malade par rapport à j'ai acheté quelque chose chez vous. Là. C'est ça. C'est, personne ne veut ça. Tout le monde veut faire plaisir à son client, puis personne aussi veut rendre quelqu'un malade. Donc, je voudrais que c'est assez rare, mais ça peut arriver parfois. Mais on suit beaucoup. Les magasins sont au courant de ce qui se passe. Autant que s'ils sont bannierés, ils reçoivent l'information de la bannière. Ils sont indépendants, ils reçoivent l'information aussi du ministère, puis on sort les produits rapidement.
Ouais, c'est une machine très rodée finalement. Il y a assez peu de produits qui peuvent passer entre les mailles. Tu parlais de communication entre les fournisseurs, entre les détaillants. Au niveau des consommateurs, comment est-ce que vous communiquez avec eux pour avoir le meilleur dialogue possible, la meilleure compréhension des enjeux autour de ça?
Ben, je te dirais que la majorité des clients font quand même confiance. On est habitué d'aller à l'épicerie, ils font quand même confiance aux propriétaires, aux détaillants. Donc, je dirais que qu'est-ce qu'on voyait un peu venir, puis c'était comme une nouvelle tendance qu'il y a avec la pandémie qui s'est enlevée un peu, c'est tous les plats, là, les gens qui veulent amener leurs propres plats parce qu'ils n'aiment pas l'emballage. On a eu avant la pandémie, là, les gens veulent amener le Tupperware, puis amener ça, puis bon, se faire servir la viande directement dans le plat. On le voit moins, parce que la notion justement de salubrité, tu sais, je veux dire, quand les clients partent avec le produit, s'ils le mettent dans son plat, je ne suis plus responsable de ce qu'il fait. Donc, même je voudrais le vrac, qui était une grande tendance en 2019, le vrac a pris moins de place parce que les gens ont une crainte, la COVID a peut-être amené ça, mais les gens vont s'assurer que quand c'est bien emballé, puis on le voit avec les produits en transformation, ils respectent les normes. Donc, si tu achètes un produit qui est déjà pré-emballé, ça les rassure. Même que je voudrais que, comme je vous dis, le vrac prend moins d'espace. Donc, ça fait en sorte que le client est conscient du rôle qu'on joue, puis de la préparation qu'on fait des aliments, puis ils nous font confiance. Puis le lien de confiance est quand même assez présent. Mais tu sais, Sylvie a amené un point sur la sécurité alimentaire. Puis je pense que ça, c'est un enjeu qu'on devra, en tant que société, réfléchir. Puis tu sais, la sécurité alimentaire, oui, pour les consommateurs, mais aussi pour notre propre industrie. Tu sais, on faisait la blague, puis on peut en parler, mais tu sais, il y a des produits qu'on est dépendant au Québec, qu'on ne fabrique pas. Puis je pense que les gouvernements, on le travaille avec les serres, mais je pense aussi que le gouvernement a à appuyer les innovations en transformation alimentaire. Je vais faire une passe à Sylvie, là, mais je pense que de plus en plus, on doit plus produire ici, mais ça prend de l'appui, puis des investissements. Puis des investissements en transformation, c'est des bons montants. Donc ça, puis si nous, en tant que détaillants, on va les prendre ces produits-là. Là. Tu sais, on va les acheter parce qu'il y a un besoin, les gens vont nous rechercher. Puis c'est plus simple pour nous s'il y a une rupture de stock ailleurs dans le monde. Si on a un fournisseur ici, ben on va créer un lien d'affaires. Donc, cette sécurité-là sur notre territoire, puis je lisais un livre d'Alec Castonguay sur la pandémie, puis la première question que le secrétaire général a posée, c'est est-ce qu'on est correct au niveau des approvisionnements alimentaires? Parce qu'il ne faut pas que les gens manquent de nourriture en termes de pandémie. Donc, comme notre réseau est quand même bien, mais quand on dépend des exportations pour certaines marques de produits qui sont plus faibles en termes de production québécoise, ben on est un peu pénalisé. Donc, je pense qu'il faut aider nos transformateurs. Puis nous, les détaillants, ben, on va être là pour les appuyer, pour acheter des produits, mais il faut les aider. Puis cette notion-là de territoire, je pense que c'est de plus en plus important. Je pense qu'il faut appuyer les initiatives qui se font dans ce sens-là.
Sylvie, est-ce que tu voulais réagir là-dessus?
Non. Je pense que Stéphane a pas mal couvert large. Je veux juste revenir sur les rappels alimentaires. Il faut aussi être conscient que plusieurs des rappels sont sur des produits importés et souvent sur des produits frais. Depuis quelques années, pour une raison X, on a plusieurs rappels de laitue. Et évidemment, malheureusement, tout passe dans le tordeur en même temps. On ne fait pas de distinction entre la laitue qui vient de Californie, qui est celle qui est touchée, par rapport à celle qui vient de la Floride ou d'ailleurs. Puis c'est surtout, évidemment, en hiver ou quand on n'a pas la capacité d'en fabriquer ici. Alors, il faut quand même être conscient que beaucoup des rappels sont autour de ce type d'aliments à cause de la listeria. Donc, fruits, légumes et évidemment les produits de viande. Je pense que avec le temps, on se raffine et on va finir par être beaucoup plus précis sur le type de rappel qu'on fait. L'autre chose que Stéphane a soulevé, c'est les gens qui, évidemment, sont contre l'emballage et qui veulent traîner leur propre contenant à l'épicerie pour, évidemment, de la viande et autres. Évidemment, nous, on est très préoccupés par ça, parce que si un client a mal nettoyé son contenant, évidemment, va à l'épicerie se faire remplir ça de viande et pour une raison X est malade par la suite, bien évidemment, ça peut causer un rappel pour l'ensemble de l'industrie. Et ça, c'est un risque qu'on ne veut pas avoir, évidemment, à gérer. Donc, remplir des contenants de savon, c'est une chose, et il n'y a pas de danger, mais de remplir des contenants avec des produits frais tels que la viande ou la volaille, pour nous, là, ça, c'est un vrai enjeu. Puis, on n'est pas contre la vertu, on sait que le packaging, c'est un enjeu, c'est un problème, mais il ne faut pas oublier que le packaging est là pour, justement, préserver les aliments et assurer la sécurité, la salubrité des aliments, puis pas empoisonner le consommateur. Alors, la pandémie aura amené, évidemment, un ralentissement de ce côté-là. Tout ce qui était en vrac a été mis de côté pour, je pense que c'est toujours le cas, mais il faut quand même que le consommateur réalise qu'il y a un danger puis un risque de traîner ses propres contenants pour les produits frais.
Finalement, la pandémie a mis peut-être en lumière certains enjeux, aussi bien au côté de l'approvisionnement que du côté de la sécurité, et a permis du côté des détaillants de renforcer peut-être certaines mesures, certaines... Est-ce que vous voyez des choses qui ont été un peu lancées avec la pandémie, des initiatives qui ont été renforcées, accélérées avec la pandémie?
Ben, je voudrais que, tu sais, on parle de sécurité alimentaire, puis tu sais, on est en décembre, puis j'invite les gens à être généreux avec les banques alimentaires, tu sais, parce que c'est une question de sécurité pour certaines personnes de se nourrir. Donc, si jamais, tu sais, ceux qui écoutent, on fait déjà partie, là, autant du côté des transformateurs que de chez nous, des programmes de banque alimentaire, mais si jamais vous écoutez le balado puis vous avez le goût de redonner un peu aux moissons, entre autres, aux organismes, je pense que ça c'est toujours... Les besoins sont grandissants, hein, on l'oublie souvent, là, mais il y a des gens qui ont des revenus, là, qui travaillent et qui... C'est pas juste les gens qui sont sans revenus, là, qui vont dans les banques alimentaires. Il y a des gens qui ont des revenus et qui ont besoin d'aller dans les banques alimentaires. Donc, si j'ai un message à passer à la fin, peut-être parce que c'est un peu le temps des fêtes qui s'en vient, mais je voudrais si on est capable de redonner un peu. Je sais que nous, on le fait dans les détaillants le font, mais en tant qu'individu aussi, si on est capable de faire un don aux banques alimentaires personnellement ou encore avec des produits alimentaires, mais c'est de le faire parce qu'on ne veut pas que personne à Noël passe un Noël un peu sans manger à sa faim. Donc, on invite les gens à peut-être redonner un peu au suivant pour la période des fêtes.
En fait, la pandémie aura aussi diminué le nombre de produits disponibles sur les tablettes. Veux pas, on subit encore les conséquences de ça maintenant. On a déjà parlé de pénurie de main-d'œuvre. Je ramène la pénurie de main-d'œuvre qui fait que l'approvisionnement de certains produits peut se faire évidemment plus rare. Ça n'empêche pas que la sécurité alimentaire est toujours là, est toujours au premier plan. Mais juste pour reprendre ce que Stéphane vient de dire, effectivement, s'il y a moins de produits disponibles, il y en a moins qui vont vers les banques alimentaires. On doit évidemment être généreux autant que possible vis-à-vis les moissons, banques alimentaires et autres. Évidemment, tout ce qui est organisme dans votre localité, c'est important.
Merci Sylvie et Stéphane pour ce message de solidarité à la fin, en effet. Tout ça clôt donc nos derniers épisodes sur l'approvisionnement alimentaire et la sécurité alimentaire. Merci beaucoup tous les deux pour votre participation, qui était très pertinente. Et puis, je vous enjoins, chers auditeurs, à écouter nos deux épisodes précédents de ce balado, dans lesquels on a parlé notamment de la relation entre les fournisseurs et les détaillants, et pour le deuxième épisode, des marques privées, de la puissance et de leur impact dans l'innovation. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation, merci aux auditeurs pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.